La mille et une nuits, tome 4, chapitre 2, histoire de la princesse Badoure après la séparation du prince Camaralzaman. La princesse dormit assez longtemps, et en s'éveillant, elle s'étonna que le prince Camaralzaman ne fût pas avec elle. Elle appela ses femmes, elle leur demanda si elles ne savaient pas où il était. Dans le temps qu'elle lui assurait qu'elle l'avait vu entrer, mais qu'elle ne l'avait pas vu sortir, elle s'aperçut, en reprenant sa ceinture, que la petite bourse était ouverte et que son talisman n'y était plus. Elle ne douta pas que Camaralzaman ne lui prît pour voir ce que c'était et qu'il ne le lui rapportât. Elle l'attendit jusqu'au soir avec de grandes impatiences. Elle ne pouvait comprendre ce qui pouvait l'obliger d'être éloignée d'elle si longtemps. Comme elle vit qu'il était déjà nuit obscure et qu'il ne revenait pas, elle en fut dans une affliction qui n'est pas concevable. Elle maudit mille fois le talisman et celui qui l'avait fait. Et si le respect ne le retenut, elle eut fait des imprécations contre la reine sa mère qui lui avait fait un présent si funeste. Désolée au dernier point de cette conjoncture, d'autant plus fâcheuse qu'elle ne savait par quel endroit le talisman pouvait être la source de la séparation du prince d'avec elle, elle ne perdit pas le jugement. Elle prit au contraire une résolution courageuse, peu commune aux personnes de son sexe. Il n'y avait que la princesse et ses femmes dans le camp qui sussent que Camaralzaman avait disparu, car alors ses gens se reposaient ou dormaient déjà sous leur tente. Comme elle craignit qu'il ne la trahisse s'il venait en avoir connaissance, elle modéra premièrement sa douleur et défendit à ses femmes de rien dire ou de rien faire paraître qui pût en donner le moindre soupçon. Ensuite elle quitta son habit et emprunta de Camaralzaman à qui elle ressemblait si fort que ces gens la prirent pour lui le lendemain matin quand ils la virent paraître et qu'elle leur commanda de plier bagages et de se mettre en marche. Quand tout fut prêt, elle fit entrer une de ses femmes dans la litière. Pour elle, elle monta à cheval et l'on marcha. Après un voyage de plusieurs mois par terre et par mer, la princesse, qui avait fait continuer la route sous le nom du prince Camaralzaman pour se rendre à l'île des enfants de Caledan, aborda à la capitale du royaume de l'île d'Ébène, dont le roi qui régnait alors s'appelait Armanos. Comme les premiers de ces gens qui débarquèrent pour lui chercher un logement eurent publié que le vaisseau qui venait d'arriver portait le prince Camaralzaman, qui revenait d'un long voyage, et que le mauvais temps l'avait obligé de relâcher, le bruit en fut bientôt porté jusqu'au palais du roi. Le roi Armanos, accompagné d'une grande partie de sa cour, vint aussitôt au-devant de la princesse, et il la rencontra qu'elle venait de débarquer, et qu'elle prenait le chemin du logement qu'on avait retenu. Il la reçut comme le fils d'un roi son ami, avec qui il avait toujours vécu de bonne intelligence, et l'amena à son palais, où il la logea, elle et tous ses gens, sans avoir égard aux instances qu'elle lui fit de la laisser loger en son particulier. Il lui fit d'ailleurs tous les honneurs imaginables, et la régala pendant 3 jours, avec une magnificence extraordinaire. Quand les 3 jours furent passés, comme le roi Armanos vit que la princesse, qu'il prenait toujours pour le prince Camaralzaman, parlait de se rembarquer et de continuer son voyage, et qu'il était charmé de voir un prince si bien fait, de si bon air, et qui avait infiniment d'esprit, il la prit en particulier. « Prince, lui dit-il, dans le grand âge où vous voyez que je suis, avec très peu d'espérance de vivre encore longtemps, j'ai le chagrin de n'avoir pas un fils à qui je puisse laisser mon royaume. Le ciel m'a donné seulement une fille unique, d'une beauté qui ne peut pas être mieux assortie qu'avec un prince aussi bien fait, d'une aussi grande naissance et aussi accomplie que vous. Au lieu de songer à retourner chez vous, acceptez-la de ma main, avec ma couronne, dont je me démets dès à présent en votre faveur, et demeurez avec nous. Il est temps désormais que je me repose, après en avoir soutenu le poids pendant de si longues années, et je ne puis le faire avec plus de consolation que pour voir mes états gouvernés par un si digne successeur. » La sultane Scheherazade voulait poursuivre, mais le jour qui paraissait déjà l'en empêcha. Elle reprit le même conte la nuit suivante, et dit au sultan des Indes. 224e nuit. Sire, l'offre généreuse du roi de l'île d'Ébène de donner sa fille unique en mariage à la princesse Badoure, qui ne pouvait l'accepter parce qu'elle était femme, et de lui abandonner ses états, la mirent dans un embarras auquel elle ne s'attendait pas. De lui déclarer qu'elle n'était pas le prince Camaralzaman, mais sa femme, il était indigne d'une princesse comme elle de tromper le roi après lui avoir assuré qu'elle était ce prince et qu'elle en avait si bien soutenu le personnage jusqu'alors. De la refuser aussi, elle avait une juste crainte dans la grande passion qu'il témoignait pour la conclusion de ce mariage qu'il ne changea sa bienveillance en aversion et en haine, et n'attenta même à sa vie. De plus, elle ne savait pas si elle trouverait le prince Kamaralzaman auprès du roi Charzaman, son père. Ses considérations et celles d'acquérir un royaume au prince son mari, au cas où elle le retrouva, déterminèrent cette princesse à accepter le parti que le roi Armanos venait de lui proposer. Ainsi, après avoir demeuré quelques moments sans parler, avec une rougeur qui lui monta au visage et que le roi attribua à sa modestie, elle répondit « Sire, j'ai une obligation infinie à votre majesté de la bonne opinion qu'elle a de ma personne, de l'honneur qu'elle me fait, et d'une si grande faveur que je ne mérite pas et que je n'ose refuser. Mais, sire, ajouta-t-elle, je n'accepte une si grande alliance qu'à condition que votre majesté m'assistera de ses conseils et que je ne ferai rien qu'elle n'ait approuvé auparavant. » Le mariage conclu et arrêté de cette manière, la cérémonie en fut remise au lendemain, et la princesse Badour prit ce temps-là pour avertir ses officiers, qui la prenaient aussi pour le prince Kamaralzaman, de ce qui devait se passer, afin qu'ils ne s'en étonnassent pas, et elle les assura que la princesse y avait donné son consentement. Elle en parla aussi à ses femmes, et les chargea de continuer de bien garder le secret. Le roi de l'île d'Ébène, joyeux d'avoir acquis un gendre dont il était si content, assembla son conseil le lendemain et déclara qu'il donnait la princesse sa fille en mariage au prince Kamaralzaman, qu'il avait amené et fait asseoir près de lui, qu'il lui remettait sa couronne et leur enjoignait de le reconnaître pour leur roi et de lui rendre leurs hommages. En achevant, il descendit du trône et après qu'il y eut fit monter la princesse Badour et qu'elle se fût assise à sa place, la princesse y reçut le serment de fidélité et les hommages des seigneurs les plus puissants de l'île d'Ébène qui étaient présents. Au sortir du conseil, la proclamation du nouveau roi fut faite solennellement dans toute la ville. Des réjouissances de plusieurs jours furent indiquées, et des courriers dépêchés par tout le royaume pour y faire observer les mêmes cérémonies et les mêmes démonstrations de joie. Le soir, tout le palais fut en fête, et la princesse Ayatalnefous, c'est ainsi que se nommait la princesse d'île d'Ébène, fut amenée à la princesse Badour, que tout le monde prit pour un homme, avec un appareil véritablement royal. Les cérémonies achevées, on les laissa seules et elles se couchèrent. Le lendemain matin, pendant que la princesse Badour recevait dans une assemblée générale les compliments de toute la cour au sujet de son mariage et comme nouveau roi, le roi Armanos et la reine se rendirent à l'appartement de la nouvelle reine leur fille et s'informèrent d'elle comment elle avait passé la nuit. Au lieu de répondre, elle baissa les yeux et la tristesse qui parut sur son visage fit assez connaître qu'elle n'était pas contente. Pour consoler la princesse Ayatalnefous, ma fille, lui dit le roi Armanos, cela ne doit pas vous faire de la peine. Le prince Kamaralzaman, en l'abordant ici, ne songeait qu'à se rendre au plus tôt auprès du roi Charzaman, son père. Quoique nous l'ayons arrêté par un moyen dont il a lieu d'être bien satisfait, nous devons croire néanmoins qu'il a un grand regret d'être privé tout à coup de l'espérance même de le revoir jamais, ni lui, ni personne de sa famille. Vous devez donc attendre que, quand ses mouvements de tendresse filiale se seront un peu ralentis, il en usera avec vous comme un bon mari. » La princesse Badour, sous le nom de Kamaralzaman, roi de l'île d'Ébène, passa toute la journée non seulement à recevoir les compliments de sa cour, mais même à faire la revue des troupes réglées de sa maison et à plusieurs autres fonctions royales, avec une dignité et une capacité qui lui attirèrent l'approbation de tous ceux qui en furent témoins. Il était nuit quand elle rentra dans l'appartement de la reine Ayatalnefous, et elle connut fort bien à la contrainte avec laquelle cette princesse la reçut, qu'elle se souvenait de la nuit précédente. Elle tâcha de dissiper ce chagrin par un long entretien qu'elle eut avec elle, dans lequel elle employa tout son esprit, et elle en avait infiniment, pour lui persuader qu'elle l'aimait parfaitement. Elle lui donna enfin le temps de se coucher, et dans cet intervalle elle se mit à faire sa prière. Mais elle la fit si longue que la reine Ayatalnefous se s'endormit. Alors elle cessa de prier et se coucha près d'elle sans l'éveiller, autant affligée de jouer un personnage qui ne lui convenait pas que de la perte de son cher Kamaralzaman, après lequel elle ne cessait de soupirer. Elle se leva le jour suivant à la pointe du jour, avant qu'Ayatalnefous fût éveillée, et alla au conseil avec l'habit royal. Le roi Armanos ne manqua pas de voir encore la reine sa fille ce jour-là, et il la trouva dans les pleurs et dans les larmes. Il n'en fallut pas davantage pour lui faire connaître le sujet de son affliction. Indigné de ce mépris, à ce qu'il s'imaginait, dont il ne pouvait comprendre la cause. « Ma fille, lui dit-il, ayez encore patience jusqu'à la nuit prochaine. J'ai élevé votre mari sur mon trône. Je saurais bien l'en faire descendre et le chasser avec honte s'il ne vous donne la satisfaction qu'il doit. Dans la colère où je suis de vous voir traiter si indignement, je ne sais même si je me contenterai d'un châtiment si doux. Ce n'est pas à vous, c'est à ma personne qu'il fait un affront si sanglant. » Le même jour, la princesse Badoure entra fort tard chez Hayat al-Nefous. Comme la nuit précédente, elle s'entretint de même avec elle et voulut encore faire sa prière pendant qu'elle se coucherait. Mais Hayat al-Nefous la retint et l'obligea de se rasseoir. « Quoi, dit-elle, vous prétendez donc, à ce que je vois, me traiter encore cette nuit comme vous m'avez traité les deux dernières? Dites-moi, je vous supplie, en quoi peut vous déplaire une princesse comme moi qui ne vous aime pas seulement, mais qui vous adore et qui s'estime la princesse la plus heureuse de toutes les princesses de son sang d'avoir un prince si aimable pour mari? Une autre que moi, je ne dis pas offensée, mais outragée par un endroit si sensible, aurait une belle occasion de se venger en vous abandonnant seulement à votre mauvaise destinée. Mais quand je ne vous aimerai pas autant que je vous aime, bonne et touchée du malheur des personnes qui me sont le plus indifférentes, comme je le suis, je ne laisserai pas de vous avertir que le roi mon père est fort irrité de votre procédé, qu'il n'attend que demain pour vous faire sentir les marques de sa juste colère si vous continuez. Faites-moi la grâce de ne pas mettre au désespoir une princesse qui ne peut s'empêcher de vous aimer. » Ce discours mit la princesse Badoure dans un embarras inexprimable. Elle ne douta pas de la sincérité d'Hayat al-Nefous. La froideur que le roi Armanos lui avait témoignée ce jour-là ne lui avait que trop fait connaître l'excès de son mécontentement. L'unique moyen de justifier sa conduite était de faire confidence de son sexe à Hayat al-Nefous. Mais, quoiqu'elle eût prévu qu'elle serait obligée d'en venir à cette déclaration, l'incertitude néanmoins où elle était si la princesse le prendrait en mal ou en bien la faisait trembler. Quand elle eut bien considéré enfin que si le prince Camaralzaman était encore au monde, il fallait de nécessité qu'elle vînt à l'île d'Ébène pour se rendre au royaume du roi Charzaman, qu'elle devait se conserver pour lui et qu'elle ne pouvait le faire si elle ne se découvrait à la princesse Hayat al-Nefous, elle hasarda cette voie. Comme la princesse Badoure était demeurée interdite, Hayat al-Nefous, impatiente, allait reprendre la parole lorsqu'elle l'arrêta par celle-ci. « Aimable et trop charmante princesse, lui dit-elle, j'ai tort, je l'avoue, et je me condamne moi-même. Mais j'espère que vous me pardonnerez et que vous me garderez le secret que j'ai à vous découvrir pour ma justification. » En même temps, la princesse Badoure offrit son sein. « Voyez, princesse, continua-t-elle, si une princesse, femme comme vous, ne mérite pas que vous lui pardonniez. Je suis persuadée que vous le ferez de bon cœur quand je vous aurai fait le récit de mon histoire, et surtout de la disgrâce affligeante qui m'a contrainte de jouer le personnage que vous voyez. » Quand la princesse Badoure eut achevé de se faire connaître entièrement à la princesse de l'île d'Ébène pour ce qu'elle était, elle la supplia une seconde fois de lui garder le secret et de vouloir bien faire semblant qu'elle fût véritablement son mari jusqu'à l'arrivée du prince Camaralzaman qu'elle espérait de revoir bientôt. « Princesse, reprit la princesse de l'île d'Ébène, ce serait une destinée étrange qu'un mariage heureux comme le vôtre n'eût être de si peu de durée après un amour réciproque plein de merveilles. Je souhaite avec vous que le ciel vous réunisse bientôt. Assurez-vous cependant que je garderai religieusement le secret que vous venez de me confier. J'aurai le plus grand plaisir du monde d'être la seule qui vous connaisse pour ce que vous êtes dans le grand royaume de l'île d'Ébène, pendant que vous le gouvernerez aussi dignement que vous avez déjà commencé. Je vous demandais de l'amour, et présentement je vous déclare que je serai la plus contente du monde si vous ne dédaignez pas de m'accorder votre amitié. » Après ces paroles, les deux princesses s'embrassèrent tendrement et après mille témoignages d'amitié réciproque, elles se couchèrent. Selon la coutume du pays, il fallait faire voir publiquement la marque de la consommation du mariage. Les deux princesses trouvèrent le moyen de remédier à cette difficulté. Ainsi, les femmes de la princesse Hayat al-Nefous furent trompées le lendemain matin et trompèrent le roi Armanos, la reine, sa femme et toute la cour. De la sorte, la princesse Badoure continua de gouverner tranquillement, à la satisfaction du roi et de tout le royaume. La sultane Scheherazade n'en dit pas davantage pour cette nuit, à cause de la clarté du jour qui se faisait apercevoir. Elle poursuivit la nuit suivante et dit au sultan des Indes.